Ce dimanche, on va vous parler de l'âne. Cet animal a la réputation d'être têtu, buté, borné. Il est souvent tourné en dérision, moqué, dévalorisé, à tel point que son nom dans le langage courant est une insulte. Eh bien, cette réputation, cette injustice, Abderrahim Ben Attabou ne la supporte pas. Acteur de la scène culturelle à Tanger, il s'est pris d'une véritable passion pour ses équidés à grandes oreilles et à l'œil pacifique. Alors depuis des années, il accumule objets, dessins, films, livres et œuvres en tout genre qui ont rapport de près ou de loin avec cet animal. Son trésor, il veut maintenant le partager. Le musée de l'âne ouvrira ses portes cet été à Tanger. Ce dimanche, visite en avant-première. On ira également à Marrakech où le musée Yves Saint-Laurent présente actuellement une exposition d'un couple célèbre d'artistes contemporains. Leur nom de scène, c'est Christo. Une vie passée à emballer, à empaqueter. Et puis le plus grand festival de cinéma au monde, la semaine prochaine, à Cannes. Ça commence mardi. Grosse pression pour les organisateurs. L'édition précédente avait été quelque peu décevante. Bonjour à tous, c'est Van Culture. Nous sommes ensemble pendant une heure sur Média. Ce sera assurément une première au Maroc. Un musée complètement consacré à l'âne. Ce dimanche, je vous propose une incursion, une plongée dans un cabinet de curiosité, une caverne d'Ali Baba. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'âne, sans oser le demander. Visite du futur musée avec son créateur, Abderrahim Ben Attabou. Il est, vous allez l'entendre, absolument intarissable sur le sujet.
Alors, on est dans le quartier espagnol, ce qu'ils appellent à Tanger le quartier espagnol. C'était l'ancien quartier des Lumières, rue Volta, rue Edison, rue Watts. Et c'est là où j'ai décidé de créer un mini-musée pour le dédier à l'âne. D'abord lui rendre hommage et puis aussi le raconter différemment. Quoi. Alors on est exactement à 150 mètres de la corniche et à 150 mètres de la fameuse place des Paresseux qui est le centre-ville de Tanger. On est aussi à 200 mètres du Cervantes, l'ancien théâtre de Tanger. Et on est dans le fameux quartier où Burroughs, Ginsberg, Paul Bowles avaient séjourné, donc l'hôtel Mouniria et puis l'hôtel L'Armor. C'était un peu le quartier de la Beat Generation.
Et le bâtiment dans lequel on va rentrer ?
C'était surtout des Juifs et des Espagnols qui vivaient ici. C'est un quartier qui est en train d'être réhabilité parce qu'il est passé par les années 90 où c'était que du trafic et maintenant de plus en plus ça se convertit en petit quartier chic petit à petit, quoi. Ça prend du temps. On a la galerie Kent qui s'installe et donc il y a déjà trois galeries installées dans le quartier, un restaurant.
D'accord.
Et puis comme vu la proximité avec le port, le quartier est obligatoirement appelé à changer, à se développer, quoi.
On continue.
On arrive vers le musée. Le musée qui est d'abord un grand hommage à l'âne, qui pour moi est un animal totem du Maroc, un animal symbole du Maroc. Mais c'est aussi une façon de rendre hommage à tous ces travailleurs qui ont fait le Maroc moderne. Alors, la porte du coffre-fort. Bienvenue au musée de l'âne. Première pièce qui est dédiée aux œuvres d'art. Et la deuxième pièce est dédiée à l'espace encyclopédique.
Donc là, on est dans une pièce assez restreinte. On est quoi ? On doit être dans du 15 mètres carrés. Et là, vous avez accumulé une somme incroyable d'objets qui ont tous trait à l'âne.
À l'âne et à l'histoire du Maroc vue par un âne. Parce qu'on a aussi la révolution de l'homme à l'ânesse, qui est un peu une des premières révolutions du Maroc moderne, en 1906. Et donc, l'âne peut être utilisé comme un moyen d'arriver à un autre sujet. Par exemple, là, on a une bouteille de Wellmess des années 40, avant la privatisation. Donc, on voit écrit Wellmess, État marocain. Et ça, c'est parce que c'est l'âne qui portait toutes ces bouteilles dans les médinas. Et on a une vieille bouteille de Pepsi des années 50 aussi. On a la fameuse jus d'or. C'est toutes des limonades qui étaient livrées à Dodane. Et la Orangina version 70, je crois, années 70. On a reçu énormément de participation du monde entier. Alors, On a États-Unis.
Concrètement, enfin, comment ça s'est passé? Vous avez sollicité votre réseau, vos amis?
Disons que les amis, chaque fois qu'ils entendent le mot âne, qu'ils voient un truc l'âne, ils pensent forcément à moi. Par contre, d'autres œuvres ont été faites sur place. C'est pour raconter l'histoire de l'aéropostale avec Saint-Exupéry qui avait vécu au Maroc. Je reprends la phrase « dessine-moi un mouton » avec « dessine-moi un âne ». Et donc j'invite des artistes à dessiner sur place un âne. C'est le cas de celui-là qui a été fait par une artiste suisse. Peau d'âne par Juliette, une française. On a aussi...
Votre artiste suisse, là, je regarde le tableau. On peut imaginer... c'est le détroit Gibraltar qui est représenté là, non?
Ouais, c'est le détroit Gibraltar avec l'âne en costume de Superman.
On voit le sud de l'Espagne qui descend, le nord du Maroc qui monte, et entre les deux, comme un pont entre les deux continents, un âne fièrement sur ses quatre pattes qui nous regarde fixement.
Comme tout espace public, on a notre photo du roi. Et ici, c'est Hassan II avec un âne. C'est les années 60, parce qu'on reconnaît la princesse qui est à dos d'âne. Et voilà, c'est les années 60. Ça, c'est un artiste fou d'âne que j'ai rencontré, qui a visité le musée et qui nous a offert une de ses fresques. Alors, Manuel Cano dessine des ânes et que des ânes depuis 25 ans. On a aussi une collection de cartes postales. Là, on peut reconnaître Dar el-Baroud, qui est le quartier en face du port. Et c'est des originaux, des années 50 et une autre des années 60. Là, c'est le Grand Soko.
Avec les ânes vraiment au premier plan, ouais.
C'est des petits chefs-d'œuvre qu'on a pu dénicher au fil des ans. Je peux, par exemple, vous présenter une photo d'âne qui est assez spéciale. Elle a été faite par un polaroid... grand format, et on voit un peu le brûlé du Polaroid. C'est un âne andalou, et cette photo a gagné le premier prix mondial du Polaroid, quoi. Donc championne du monde du Polaroid, Myriam Ruisseau, que je remercie beaucoup parce qu'elle a énormément participé au musée à chaque fois en nous envoyant des œuvres. Et ça continue, c'est des œuvres qui viennent de partout, Iran, Maroc, France. Alors... ça, c'est Ezra Dickinson, États-Unis aussi. Là, c'est la Loire, un petit passeur et son âne sur une barque. Et c'est une vieille carte postale aussi. Alors, il y a un peu de Chef Chaouane, États-Unis encore. Et bon, il y a aussi des archives. Ça, c'est un archive de livres de biologie arabe qui date de 600-700 ans. Où il y a un mélange entre science et superstition. Et dans l'extrait du livre, on retrouve par exemple que la peau d'âne a été utilisée comme contraceptif. Que tant qu'une femme portait une peau d'âne, elle ne pouvait pas tomber enceinte. Et donc j'ai trouvé assez sympa de marier ce livre de biologie arabe avec l'histoire de peau d'âne, qui est un peu aussi une histoire d'inceste et de contraception. Ici, c'est le deuxième espace qui est plus dédié à l'encyclopédique, l'historique. Et donc, on y retrouve toute la collection des livres qui commence par le plus ancien, c'est l'âne d'or d'Apulée, qui a été écrit dans la Mauritanie Tingitane, il y a plus de 2000 ans. Et jusqu'à un des derniers, c'est le roi arrive de Mohamed Ibn Zakour, qui n'a toujours pas été traduit en français. Et c'est un auteur hollandais très connu à Amsterdam, quoi. Et c'est une grande collection, il y a un peu de Shakespeare, il y a forcément les Nasreddin turcs, qui est en comparaison avec Joha, parce qu'il y a une grosse compétition entre qui est venu le premier. Est-ce que c'est Joha ou Nasreddin qui a volé les histoires de l'autre? Et bon, ça continue. C'est des, y a forcément le Don Quichotte, il y a le Platero.io de Jiménez, il y a de la bande dessinée aussi. Il y a un peu de tout. Il y a aussi nos cartes postales et nos œuvres du musée, parce que le musée ne vend pas les œuvres, ne vend pas les livres, et donc on propose des produits dérivés tels que cartes postales, t-shirts, on fait aussi des confitures. Voilà, c'est un grand chantier qu'on espère ouvrir dans 2-3 mois.
Le fait d'ouvrir ici ce local.
Alors d'abord faire une porte par ici, qui donnerait sur le jardin et sur le port, et on garderait l'ancienne porte comme une sortie de service. Et je pense avoir au moins une baie vitrée pour inviter les gens à entrer, parce qu'il y a énormément de passages de touristes dans le quartier. Et surtout inviter aussi les jeunes du quartier à dessiner, à découvrir les livres, à voir l'âne autrement, quoi.
Donc là, il y a le site en lui-même, il y a ce local, ce musée qui est en cours de préparation, qui va s'ouvrir dans quelques mois. Mais il y a aussi l'aspect itinérant.
Alors l'idée, c'est que le musée fasse des festivals, aille vers des écoles. Et on prévoit aussi une exposition dans la rue, dans une place publique, et on expose toutes les œuvres du musée. On a envie que les gens, vraiment, par leur interaction avec le musée, on dépasse le rire de l'insulte de l'âne et qu'on aille au-delà. Et qu'on découvre l'âne autrement que par l'insulte ou par le dénigrement, quoi. C'est un animal qui fait partie de notre histoire, de l'histoire de l'humanité. Ça fait 5000 ans qu'il est domestiqué, ça fait 5000 ans qu'il nous aide à travailler, à porter, à construire. Et c'est un animal très intelligent qui a une relation assez spéciale avec l'être humain. C'est que, contrairement au cheval qui fait ce qu'on lui demande, l'âne fait ce qui ne le met pas en danger. Et ne met pas son propriétaire en danger. Donc c'est plus un partenariat qu'une domestication ou un esclavagisme.
Dans le 7e art, peu de films mettent l'âne en vedette. Pour trouver un exemple, il faut faire un tour dans une cinémathèque. Tiens, Au hasard Balthazar de Robert Bresson, film franco-suédois de 1966. L'histoire d'un petit âne qui grandit au sein d'une famille. Les enfants s'en occupent avec amour, mais plus tard, la famille doit s'en séparer. Balthazar est vendu à un boulanger pour porter le pain. Il est maltraité, il finira par s'enfuir. Balthazar, les tribulations d'un âne dans la France rurale des années 60, prétexte à la peinture des travers humains.
Oui, c'est Balthazar.
Balthazar. Mon mari, comme tout, est resté pareil. Chouette, un âne. C'est rapide. Moderne.
Cet âne est rétrograde et ridicule. Il nous rend ridicule.
Nous n'avons plus rien. Le peu qui nous reste, la maison, le jardin, n'est même pas à nous. Papa a distribué son dernier sou, créancier.
Voilà ce qui arrive quand on met la probité et l'honneur au-dessus de tout.
Prêtez-le-nous.
Il a assez travaillé. Il est vieux et je n'ai plus que lui.
Rien qu'un jour.
Et puis c'est à ça. Les promesses enfantines que nous nous étions faites, c'était dans un monde imaginaire. Pas dans la réalité. La réalité, c'est autre chose.
Ils l'ont déshabillé, battu et enfermé à clé.
Il faut pardonner. À tous.
Balthazar.
À vous, il sera beaucoup pardonné à cause de vos souffrances.
Ça vous vient d'où, cette passion de l'âne? Ça a commencé quand?
Je sais que ça fait 5 ans et que c'était pour rendre hommage à mon arrière-grand-mère que j'ai connue jusqu'à ses 113 ans et qui était cavalière à dos d'âne, quoi. Par contre, l'intérêt plutôt encyclopédique autour de l'âne est venu le jour où j'ai découvert que le Maroc était le premier exportateur d'âne au monde. Pendant longtemps, l'âne a rapporté de l'argent à l'économie marocaine et même plus que le cinéma marocain.
C'est le cas encore aujourd'hui. Le Maroc reste un exportateur.
Jusqu'à présent, le Maroc reste un exportateur et le marché a changé. Avant, c'était l'Europe. Maintenant, c'est plus les États-Unis et la Chine. Mais nous avons 12 entreprises spécialisées en production, élevage et exportation d'ânes.
Les ânes aux États-Unis, ils vont faire quoi?
Les États-Unis sont quand même un pays très rural. Sans parler de certains ethnies, si on peut appeler ça comme ça, aux États-Unis, qui n'utilisent pas la voiture pour des aspects religieux. Je pense aux Mormons, je pense à d'autres. Par contre, l'âne reste aussi un des meilleurs moyens pour du tourisme écologique, pour un accès difficile à des montagnes ou à des chemins escarpés. Donc l'âne gardera quand même un peu d'utilité dans ce qui est transport, mais on n'est plus dans la force économique qu'avait créé l'âne il y a quelques siècles.
Tu as déjà fait des expositions itinérantes, il y a déjà des événements qui ont eu lieu autour de l'âne. Quelle est la réaction du public par rapport à cette thématique? Comment le public accueille le fait que l'on parle de l'âne?
Alors déjà, ça fait rire et ça me fait plaisir. Par contre, quand ils voient mon acharnement à expliquer avec tous les détails que je sors autour de l'âne, on passe du rire, du sarcasme à un questionnement. Et puis les gens sont finalement demandeurs d'informations. Les gens adorent savoir plus. Surtout quand c'est un sujet qu'ils croient avoir maîtrisé et qu'ils découvrent qu'ils sont loin de ça. Donc, que ce soit avec des chercheurs, avec des gens des arts et des lettres ou avec le public ordinaire, l'expérience est toujours assez spéciale parce qu'on passe du rire à l'étonnement et puis à l'intérêt.
Au final, qu'est-ce qui te plaît autant que ça chez l'âne, chez cet animal?
Je crois que c'est mon amour des causes perdues. Je n'ai jamais trop compris cet acharnement sur un animal. Ça me rappelle comment l'être humain peut aussi s'acharner sur une couleur ou une race ou une culture. Ou une... Donc moi, l'âne, c'est une façon aussi de rappeler aux gens que le dénigrement, le regarder les choses de haut, engendre du racisme, de la xénophobie, et que l'âne est né avec une image préétablie de bêtise et de têtu, alors que ce n'est pas le cas. J'utilise l'âne pour arriver à parler de sujets un peu plus sensibles. Je parle par exemple des tortues et des cigognes qui, contrairement à l'âne, n'ont pas de voix forte pour crier leur malheur. Et j'utilise aussi l'image de l'âne comme on utiliserait l'image du noir ou du berbère ou du chinois ou du... On est dans un monde où on cherche toujours à rabaisser pour se sentir mieux. Et donc j'utilise cette symbolique de l'âne pour parler de ça aussi.
Voilà, à partir de l'exemple de l'âne, de ce qu'il est, de ce qu'il représente pour éclairer les esprits, une leçon de tolérance, le musée de l'âne d'Abderrahim Ben Attabou doit ouvrir cet été à Tanger. Évidemment, évidemment, on vous tiendra au courant. Ban Culture revient dans la deuxième partie. On va parler de Christo à Marrakech et du Festival international du film de Cannes. Ça commence mardi prochain. À tout de suite.
Midi, Ban de Culture avec David Labo.
Des œuvres d'un couple d'artistes mythiques exposées actuellement à Marrakech. Le chanteur algérien Jam en concert ce soir à Meknès. Et puis cinéma, le coup d'envoi dans deux jours du Festival de Cannes en France. Une exposition Christo actuellement donc au musée Yves Saint-Laurent à Marrakech. On en parle avec la journaliste Marie Moignard de Diptyque. Elle a répondu cette semaine aux questions de Mounia Belarbi.
Christo, c'est un grand artiste d'origine bulgare qui a ensuite émigré aux États-Unis, qui a un passeport américain et qui avec sa femme Jeanne-Claude, a parcouru le monde entier pour impacter ou intervenir dans l'espace public de manière assez incroyable. Il a par exemple, dans les années 80, emballé, on s'en souvient, le Pont Neuf à Paris, avec des kilomètres carrés de cordes et de toiles, et puis aussi le Reichstag à Berlin, dans les années 90.
Donc c'est un artiste mondialement connu qui vient présenter à Marrakech, au musée Yves Saint-Laurent. Ben, quoi exactement? Quelle est cette exposition que vous avez visitée?
Alors, c'est une exposition très délicate dans ce petit écrin bijoux qu'est le musée Saint-Laurent de Marrakech. Et c'est une exposition qui est un petit peu l'exposition des premières fois. C'est la première fois que Christo expose dans un musée dédié à la mode. C'est la première fois aussi que Christo expose au Maroc. Et c'était même la première fois que Christo venait sur le territoire marocain, alors que sa femme et partenaire Jeanne-Claude est originaire de Casablanca.
Elle est née à Casablanca, je crois.
Tout à fait, oui, c'est vrai. Donc, à plus de 80 ans, Christo est encore un homme tout à fait dynamique qui peut vivre encore des premières fois. On a eu l'occasion de lui offrir ce cadeau récemment. Et donc, cette exposition parle aussi du tout début de la pratique artistique de Christo, au moment où il a commencé à emballer d'abord des petits objets. Avant d'être dans la grandeur, dans l'immensité de ces monuments de par le monde, il a commencé à emballer des boîtes de conserve, des voitures, et puis il a eu envie d'emballer un sujet en mouvement. Et donc, il a porté son intérêt sur les femmes elles-mêmes. À l'époque, il est à New York, dans les années 60, tout bouge, tout est créatif, il y a beaucoup d'expérimentation. Et il décide d'emballer le corps des femmes avec de la toile, avec un drapé qui fait référence autant aux statuaires antiques qu'aux nouvelles expérimentations dans la mode dans les années 60. Et donc il commence à utiliser cette toile qui deviendra sa signature, ses cordes aussi, qui soulignent autant qu'elles floutent le corps de la femme. Et il fait des performances pour présenter ce travail dans plusieurs institutions à New York. À l'époque, il commence à un petit peu lancer sa carrière.
Alors, quel est le rapport avec la haute couture ou avec le musée Yves Saint-Laurent? Est-ce qu'il s'est appuyé sur ce qu'il y a sur place ou comment est-ce que ça l'a inspiré?
Alors, pas vraiment. Je dois vous dire que je lui ai posé la question. Vous avez vu le musée Yves Saint-Laurent. Qu'est-ce qui vous a plu? Quelle robe vous a paru la plus architecturée, la plus singulière? Puisqu'on sait que Yves Saint-Laurent a créé des robes assez incroyables. La cape Bougainvillier, la robe paix portée par Carla Bruni pendant la Coupe du Monde 98 pour ce grand défilé sur le stade de France. Eh bien non, Christo me regarde avec malice et me dit non, pas vraiment. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est vraiment... des choses du quotidien, pas forcément être inspiré par d'autres artistes. D'ailleurs, il a dit lui-même qu'en conférence de presse, il ne parle jamais d'autres artistes, il ne parle que de lui.
C'est son
positionnement. Voilà. Mais je dois dire que le personnage est tout à fait savoureux, donc on lui pardonne.
Un grand artiste, donc Christo à Marrakech, au musée Yves Saint-Laurent, jusqu'à fin juin, c'est ça?
Tout à fait. Donc vous pourrez découvrir une série de dessins très fin, rehaussé à la craie, qui montre ses robes sculptures qu'a créé Christo. Et puis le clou de l'exposition, la wedding dress, la robe de mariée créée par Christo, une espèce d'installation énorme où la mariée est en short. Donc c'est tout à fait inhabituel. Et elle avance difficilement parce qu'elle tire une traîne énorme qui ressemble à la fois à une chrysalide, à la fois à un amas qui l'apaise en quelque sorte, puisque c'est un grand ensemble de cartons emballés par de la toile et des cordes. Donc vous voyez un petit peu peut-être la réflexion qu'a voulu essayer d'avoir Christo dans les années 60 sur le mariage, qui a été beaucoup remis en question à l'époque.
L'exposition Femmes 1962-1968 de Christo, c'est jusqu'au 2 juin à Marrakech. Il est en concert ce soir à Meknès au Maroc. Le chanteur algérien Jam, on commence par l'écouter et on en parle juste après. Marche très très bien en Algérie actuellement. Ahmed Jamil Rouli, alias Jam, en concert donc ce soir au Maroc, à Meknès, dans le cadre des Nuits du Ramadan, organisées par le réseau des instituts français. Jam, au micro de Mounia Belarbi.
Moi, quand je suis parti en France en 2014, c'est pour faire des études en musicologie. Donc j'ai fait Master 1 et Master 2. Et à ce moment-là, j'ai rencontré plein de musiciens et j'ai commencé à travailler sur mon album. Et le premier titre que j'ai écrit, c'était Leave My Bloody, parce que je sentais, en fait, je quittais mon pays pour faire des études, mais au fond de moi, c'était pour chercher autre chose. Oui. Peut-être c'est une liberté, peut-être c'est une ouverture, ou juste changer un peu, parce qu'après 30 ans en Algérie, on a envie de voir le monde ailleurs. Et j'avoue que derrière tout ça, il y a eu aussi comme si on nous a poussé un peu à s'exiler, à partir, parce que je trouve tous mes compatriotes, ils ont envie de partir ailleurs.
Et maintenant, avec ce qui se passe en Algérie, vous auriez envie de revenir ?
Là, déjà, on revient. Oui. Moi, ça fait 3 mois que je suis à Alger, mais là, je sens que les choses changent et c'est maintenant ou jamais. On reprend le flambeau, on reprend notre Algérie et c'est ce qui manquait. Avant, on n'avait pas trop d'espoir, c'est pour ça qu'on quittait. Et maintenant, on voit qu'il y a un changement, c'est-à-dire qu'il y a un espoir. Il faut évoluer les choses dans son secteur qui est la musique, faire passer un message à travers un texte ou une mélodie. Et la base de mes compositions, de ma façon de voir la musique, elle est plus rythmique que harmonique, parce que la musique africaine, ça veut dire le groove africain. Et la musique africaine, c'est le rythme, c'est le battement. Donc il y a tout un groove derrière qui se fait soit en percussion ou en guitare, mais ça reste quelque chose de rythmique qui fait groover un morceau. La plupart des chansons de l'album Hashtag Zildel, c'est une base très très africaine. Et après, il y a des couleurs shabby, il y a des couleurs reggae, il y a même des couleurs très rock, alternatives et tout. Donc pour résumer un peu, l'album Zildel, c'est une folie africaine que j'ai eue dans les voyages, dans plein de pays africains comme Burkina Faso, Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Mali. Et faire la liaison avec notre musique algérienne. Et du coup, je l'ai appelé hashtag Zildel, parce que Zildel, c'est un mot qui groove. C'est un mot que j'ai inventé. Et ça veut dire, c'est un mot qui groove. Quand je chante mes rythmes, je dis Zildel au lieu de dire boum, tac.
Voilà, déjà, mon concert ce soir à 22h sur la place Aldem.
Midi 1, bain de culture avec David Labo.
Le 72e Festival international du film de Cannes. Le coup d'envoi, ce sera ce mardi. À 2 jours de la cérémonie d'ouverture, la pression monte pour les organisateurs. L'édition précédente avait été, il faut le dire, très critiquée. Mathias Reynal.
Cannes, c'est cette mélodie, toujours la même, rassurante. Son palais des festivals, ses marches, ses stars et parfois son mauvais temps.
La pluie donc à Cannes, lorsqu'on cherche des invitations, c'est un petit peu difficile parce qu'on ne peut pas. Enfin, on a le pied mouillé, j'ai le pantalon mouillé, donc c'est quand même un véritable inconvénient. Quand il pleut à Cannes, il pleut tous les ans.
Une averse à Cannes, c'est tragédie. Mais le ciel, certaines années, peut vraiment se faire menaçant. Quand s'abat sur le festival une pluie de critiques, 2018 n'aurait pas été un bon cru. La sélection a déçu les journalistes cinéma, le palmarès aussi.
Une édition, ça ne vous a pas échappé, moins ensoleillée et plus cinéphilique, moins glamour et plus politique que d'habitude. Peu de stars, pour ne pas dire très peu. Vous en pensez quoi, vous, les critiques du Masque et la Plume, de cette édition 2018?
Je pense qu'un palmarès peut sauver un festival qui a été moyen ou au contraire le faire plonger. Et je trouve que ce palmarès est très décevant.
En 2019, le festival veut redorer sa palme et se réconcilier avec les fans de cinéma tout autant que les amateurs de glamour restés sur leur faim l'année dernière. Avec le dernier film de Quentin Tarantino, le cahier des charges est déjà respecté.
We get into a fight, I accidentally kill you, I go to jail.
Anybody accidentally kills anybody in a fight, they go to jail. It's called manslaughter.
Once Upon a Time in Hollywood a bien failli rater Cannes, ajouté à la sélection officielle il y a quelques jours seulement. Il promet au festival une montée des marches tout en strass et paillettes. Al Pacino, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt sont annoncés sur le tapis rouge. Il y aura aussi les habitués, Ken Loach, Pedro Almodovar ou encore les frères Dardenne.
Il y a un mois, t'étais tout le temps à jouer à la PlayStation avec Karim. T'as enlevé tous les posters de ta chambre.
Tu serais d'accord qu'on discute du Coran une fois par semaine tous les deux?
Je peux pas lire le Coran avec une femme.
Tu préfères le lire avec un imam qui est un menteur?
C'est pas un menteur.
Si, c'est
non.
C'est un menteur, Ahmed. Ahmed?
Le jeune Ahmed, le 11e long métrage des frères Dardenne, qui aborde le thème difficile de la radicalisation.
C'est la deuxième fois que je viens, mais c'est encore plus dur que la première. J'aimerais tellement que tu redeviennes comme t'étais.
Du cinéma d'auteur, mais des œuvres grand public aussi, avec en guest star cette année, Sylvester Stallone, qui viendra présenter les toutes premières images inédites de Rambo 5. Cannes s'attaque à tous les publics.
Vivre sans raison, ou crever pour une raison. À vous de choisir.
Cannes, le festival, à partir de ce mardi et jusqu'au 25 mai. Un événement à vivre, comme chaque année, sur Médien, avec, faut-il le rappeler, notre envoyé spécial, Bilal Marmide. Bain de culture, c'est terminé pour ce dimanche. À la semaine prochaine.